Bonjour et bienvenue à tous. Nous continuons nos émissions sur les vertus et les vices sur la vie chrétienne. Nous avons abordé déjà les quatre vertus cardinales, c'est-à-dire des vertus humaines, déjà même développées dans l'ancien monde grec ou romain, c'est-à-dire des vertus que tout homme peut exercer. Et pour cela, nous avons voulu commencer par elles. Maintenant, nous passons à un autre type de vertus, qu'on appelle les vertus théologales. Pourquoi théologales ? Théologales, ça veut dire qu'il y a une relation avec Dieu, parce qu'elles ont Dieu par principe, origine, mais aussi par but, par finalité. Ça veut dire que ces trois vertus, nous parlons de la foi, de l'espérance, de la charité, nous sont données directement par Dieu et ont pour but, nous allons les voir bien sûr dans la partie spécifique de chaque vertu, mais elles ont pour but Dieu lui-même. Mes frères, ce sont des vertus typiquement chrétiennes. C'est-à-dire que pour nous chrétiens, elles sont premières. Dans ces émissions, nous avons abordé après les vertus cardinales, je vous répète, pour montrer que tout homme peut avoir accès déjà à une partie de la vie chrétienne avant de connaître le Christ, qu'il y a des vies humaines qui sont déjà vertueuses. Mais bien sûr, pour nous chrétiens, notre vie est fondée sur la foi, sur l'espérance et la charité que l'Esprit Saint nous a donnée à travers notre baptême. Aujourd'hui, nous commençons par cette belle vertu, la vertu fondamentale, la base de toute notre vie, qui est la vertu de la foi. Bien, mes frères, sur la foi, la première chose, comme toujours dans mes émissions, il faut parler du vocabulaire. Vous savez, et nos langues ont évolué depuis la naissance, depuis l'héritage latin, bien sûr, mais au fil des siècles, nos langues ont évolué. Donc le mot foi ne veut pas tout à fait dire la même chose qu'il voulait dire à l'époque au Moyen-Âge, par exemple, même à l'époque du Christ, à l'époque de la Bible. Il faut penser que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui a été écrit en grec, le mot foi se dit pistis. Or, quand on traduit ce mot pistis, on peut le traduire aujourd'hui comme foi, comme confiance et comme fidélité. Vous voyez bien que c'est quelque chose de très large, de très ample. Mais dans nos langues, aujourd'hui, en français, on a encore dans la racine des mots foi, confiance et fidélité en F qui se balade et qui nous fait penser, en tout cas très loin, on nous fait penser à la parenté de ces mots, mais disons-le, franchement, on ne pensait pas tout de suite. Et pourtant, c'est la même réalité. En tout cas, ce sont trois réalités complémentaires. Elles ne vont pas l'une sans l'autre. C'est-à-dire que quand je parle de foi, je parle d'abord de croire en Dieu, croire que Dieu existe, qu'il est vrai, que ce qu'il dit, que ce qu'il nous a révélé, c'est la vérité, croire que Dieu nous aime, croire tout ce que dit le 12 points du credo. Nous connaissons tous, croire en Dieu le Père, en Dieu le Fils, en l'Esprit Saint, en l'Église, au pardon des péchés et à la résurrection, à la vie éternelle, pour faire un résumé très vite de notre foi. Donc déjà, dans la vertu de foi, il y a cet aspect du croire. Et se croire, là aussi, notre langue peut nous piéger un petit peu. Parce que quand quelqu'un me demande « Est-ce que tu viens ce soir à la maison ?» et que je réponde « Oui, je crois », c'est pas tout à fait sûr, c'est encore en doute, c'est peut-être. Alors que pour la foi de l'Église, quand j'affirme « Je crois », ça veut dire que j'en ai la certitude. Saint Thomas d'Aquin est celui qui a le plus travaillé cette question pour nous rappeler que la foi n'est pas du tout un doute. Aujourd'hui, on le pense pourtant, mais non, la foi n'est pas un doute. Bien sûr, la foi, c'est une certitude en l'absence de l'objet. Je le dis avec un langage un peu technique, je m'excuse, mais la foi, c'est une certitude intérieure quand on ne voit pas ce qu'on croit. C'est-à-dire que Dieu, parce qu'il s'est révélé à nous, parce qu'il s'est montré agissant dans notre histoire, on peut croire avec certitude en son existence, en son amour pour nous, bien qu'on ne l'ait jamais vu. D'autres certitudes, comme par exemple des certitudes scientifiques, on les a parce qu'on voit, on les voit, c'est évident. Mais d'autres réalités dans le monde, on a par rapport à elles des doutes parce qu'on n'est pas sûr. Or Dieu, on est sûr qu'il existe, qu'il est là, bien qu'on ne les voit pas. Ça, c'est la première dimension de la foi, le fait de croire. Mais il y a aussi une deuxième dimension, c'est le fait d'avoir confiance. Celui qui croit en Dieu, celui qui sait que Dieu existe et qu'il l'aime, il peut lui faire confiance, il peut s'abandonner en Dieu. C'est un aspect de la foi qu'on oublie souvent, parce qu'on peut réduire la foi à des vérités intellectuelles. Oui, je sais que Dieu est Père, qu'il est Fils, qu'il est Esprit Saint. Je sais que Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Je sais que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il est ressuscité. Je sais qu'il promet une vie éternelle. Je sais qu'il y aura un jugement pour les vivants et les morts. Mais on en reste là et ça change rien dans notre vie. Non, mes frères. Qui croit en Dieu lui fait confiance, s'abandonne à sa volonté toute puissante, puisque c'est lui qui nous aime, puisque c'est lui qui nous promet qu'il ne nous abandonnera jamais, comme il n'a pas abandonné son fils Jésus-Christ sur la croix. La foi, c'est cette confiance filiale en un Dieu qui est Père, qui va toujours, de tous les maux qui peuvent nous arriver, qui va toujours en tirer un bien. Mais cette foi aussi, mes frères, se traduit dans ce troisième aspect qu'est la fidélité. Je peux croire en Dieu intellectuellement, je peux lui faire confiance dans mon cœur, m'abandonner à sa volonté et aussi faire n'importe quoi de ma vie, c'est-à-dire ne pas être fidèle à cette alliance du Seigneur par rapport à moi, avec moi. Et donc la fidélité au Seigneur, la fidélité à la vie chrétienne, ce qu'on essaye de voir à travers ces émissions des vertus et des vices, est fondamental, est un aspect fondamental de la foi. Si nous croyons en Dieu, nous lui restons fidèles. D'ailleurs, quand dans la Bible, dans le livre du prophète Habacuc ou dans la lettre de Saint Paul aux Romains, quand il dit « le juste vivra par la foi », nous pouvons traduire « le juste vivra par la confiance, le juste vivra par la fidélité ». Si nous faisons confiance au Seigneur, si nous croyons qu'il est bon, qu'il nous aime, si nous sommes fidèles au Seigneur, alors mes frères, rien ne pourra nous séparer de Dieu. Bien, mes frères, nous continuons donc à parler de la foi. Et comme toute vertu, on ne peut pas rester dans une idée, dans quelque chose d'abstrait. Il faut toujours qu'elle s'incarne. D'ailleurs, c'est le propre de la parole de Dieu, de l'Écriture. Si vous ouvrez l'Écriture, vous ne trouverez jamais des leçons de théologie. Dieu n'est pas apparu dans le ciel pour dicter et dire « je suis un, je suis trine, je suis ceci ou cela ». Non, Dieu, il a agi dans l'histoire. Il a fait une histoire de salut et à travers l'histoire du salut, bien entendu, on peut reconnaître les points de notre foi, les données de notre foi. Mais c'est toujours dans l'histoire qu'il a agi. C'est la façon d'agir de Dieu dans des histoires concrètes. Pour cela, nous avons ce que nous appelons le Père dans la foi, la figure d'Abraham. Quand Dieu veut te montrer ce qu'est la foi, il te donne Abraham. Je pense que la plupart connaissent ce personnage. Je vais raconter brièvement son histoire. Abraham était un polythéiste qui habitait en Mésopotamie, disons dans l'Irak actuel. Et Abraham avait des troupeaux, avait son père, ses frères, etc. Mais Abraham n'était pas heureux parce que la conception du bonheur à l'époque exigeait d'avoir une terre où être enterré et une descendance. Bien sûr, c'est une façon très primitive de raisonner que de penser qu'en étant enterré dans sa propriété et que d'avoir une descendance qui puisse continuer son œuvre, on sera perpétué, on aura une vie éternelle. C'était la vision de l'époque, de la culture de l'époque. Et Abraham n'avait pas de terre et n'avait pas d'enfants. Alors, on peut bien imaginer qu'il s'était voué à toutes sortes de dieux. C'était à l'époque polythéiste, on peut bien l'imaginer. Et Dieu, le vrai Dieu, l'unique Dieu vivant et vrai, apparaît à Abraham et lui dit « Quitte ta parenté, quitte ta terre, quitte tout ce que tu as et pars pour une terre que je te donnerai. » Et Abraham a cru en cette promesse. Alors qu'il n'avait aucun gage, Abraham est parti en chemin avec sa femme, ses troupeaux et son neveu Lot. Et Abraham donc part pour la terre de Canaan qu'il connaît même pas encore. Il marche. Abraham marche, marche, marche. Et Dieu, pendant longtemps, reste absent. Et parfois, il réapparaît, il fait une alliance avec Abraham. À un moment donné, par exemple, le Seigneur apparaît après des années où il s'est fait plus, où il ne s'est fait plus fait sentir. Et Abraham va dire, Seigneur, ne me quitte pas sans me donner une alliance, engage une certitude. Et effectivement, le Seigneur fera une alliance avec Abraham une première fois. Ensuite, il va lui donner la circoncision comme une marque corporelle. Et Abraham va à chaque fois renouveler son acte de foi dans le Seigneur jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Jusqu'au jour où Abraham, effectivement, aura un enfant, Isaac, et aura un petit bout de terre autour du chêne de Mambré, comme on appelle. C'est-à-dire que Dieu a accompli ce qu'il a donné à Abraham. Et même quand Dieu va demander, en voyant que Abraham a idolâtré son fils, a fait de son fils une idole, va demander ce qu'on appelle bien sûr le sacrifice d'Abraham, qui était une épreuve dans la foi. Il faut bien prendre la parole dans son contexte. Était pour bien montrer que Dieu était l'unique dans la vie d'Abraham. Abraham va sortir victorieux de cette épreuve parce qu'il va faire confiance au Seigneur. Dans le personnage d'Abraham, nous voyons trois choses importantes. La première, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que Abraham a cru dans le Seigneur, c'est-à-dire qu'il lui a fait confiance et il lui est resté fidèle. Vous vous souvenez, au début de cette émission, nous avons parlé de foi, de confiance et de fidélité qui vont toujours ensemble. Mais il y a aussi une autre chose très importante dans la figure d'Abraham. Abraham nous montre que la promesse de Dieu s'est déjà accomplie en partie, mais qu'elle est restée toujours ouverte. Parce que Dieu avait promis à Abraham une terre, toute la terre de Canaan, toute la terre d'Israël. Mais il avait promis aussi une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable du rivage des mers. Or, quand Abraham meurt, il a Isaac, l'enfant de la promesse, et il a un petit bout de terrain où être enterré, le chêne de Mambré. C'est-à-dire que cette promesse de Dieu reste ouverte après Abraham. Et elle va s'accomplir, bien entendu, en notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la vraie descendance d'Abraham, le descendant d'Abraham en qui toutes les promesses s'accomplissent. Puisqu'en Jésus-Christ, nous tous les croyants, nous sommes des enfants d'Abraham. Désormais, en voyant tous les chrétiens de la terre, nous pouvons dire qu'Abraham a une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable des rivages de mer. Désormais, ce n'est pas un petit bout de terrain que l'accomplissement de la promesse Abraham. Non, c'est la patrie céleste, c'est la vie éternelle. Le Seigneur nous a donné une terre où mane le lait et le miel, où coule le lait et le miel. Le Seigneur nous a donné vraiment une patrie dans le ciel où n'existera plus ni le deuil, ni la mort, ni la douleur. Mes frères, voilà l'accomplissement des promesses faites à Abraham. Voilà que la foi d'Abraham, le Père dans la foi, a porté son fruit en Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ arrive en ce monde, nous le savons, il a besoin d'une mère, il a besoin de la Vierge Marie. Donc si nous avons un Père dans la foi, l'Écriture, la Révélation, la Bible nous donnent aussi la mère dans la foi, la Vierge Marie. Elle aussi a dû croire. Imaginez cette jeune fille qui a à peu près, on pense qu'elle avait autour de 14-15 ans. Elle reçoit à l'époque la visite de l'ange Gabriel qui lui dit « Tu enfanteras un sauveur ». Or, la première réaction de Marie, c'est de se dire « Comment cela pourra-t-il se faire si je ne connais pas d'homme, si je suis vierge ?» Et l'ange lui annonce quelque chose d'inouï, quelque chose d'inédit. C'est l'Esprit Saint qui va enfanter en toi le Sauveur. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Pour cela, le Fils qui naîtra de toi sera Fils du Très-Haut, Fils de Dieu, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Mes frères, en Marie, toutes les promesses se sont accomplies, mais Marie a dû donner le consentement de sa foi. Elle a dû croire que ce que l'ange lui a dit était vrai. Elle a dû lui faire confiance. Elle a dû rester fidèle à ce qu'elle avait reçu. Et quand elle répond à l'ange, « Voici la servante du Seigneur, qu'il advienne en moi selon ta parole. » Mes frères, toutes les promesses s'accomplissent. Elle engendre en elle le Sauveur du monde. Ça nous donne la mesure de la puissance de l'annonce de la bonne nouvelle. L'Écriture nous dit, c'est Saint Paul qui nous dira que la foi vient par l'écoute. En latin, on dit « fides ex auditu », c'est-à-dire la foi vient par l'écoute. Quand quelqu'un t'annonce une bonne parole, quand quelqu'un t'annonce ce qu'on appelle le kérigme, c'est-à-dire la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour toi, dans Dieu qui t'aime au-delà de tes péchés et de tes faiblesses, dans Dieu qui te pardonne en son Fils Jésus-Christ, dans Dieu qui prend soin de toi, qui est ton Père, qui veut faire en sorte que Jésus-Christ naisse dans ton âme, dans ton esprit. Quand tu crois à cette prédication, quand tu crois à cette annonce, tout de suite, cette foi produit un fruit, cette foi produit Jésus-Christ dans ton âme. Tu peux enfanter le Sauveur en toi. Marie l'a fait dans son âme et dans son sein maternel. Toi, tu peux le faire dans ton âme. Et ne pense pas que Marie, c'est Saint Augustin qui nous l'a dit, ne pense pas que Marie est plus heureuse parce qu'elle a conçu Jésus dans son sein plutôt que dans son âme. Tout d'abord parce qu'avant de le concevoir dans son sein maternel, elle a dû le concevoir dans son esprit par cet acte de foi qu'elle a répondu à l'ange. Et deuxièmement, parce que Jésus lui-même, quand quelqu'un lui dira au milieu de la foule « Heureux le sein qui t'a porté », Jésus dira « Heureux plutôt celui qui a écouté la parole de Dieu et qui la garde ». Voilà que Marie est la première qui a gardé la parole de Dieu, qui l'a mise en pratique et qui nous invite à sa suite à faire de même. Voilà pourquoi Marie est vraiment notre mère dans la foi.
Merci Père. Peut-être avant de conclure, pourriez-vous aussi nous éclairer, alors c'est un jeu de mots, sur ce qu'on appelle souvent la nuit de la foi. On entend parler de la nuit de la foi. Alors vous avez dit bien sûr, la foi c'est vraiment cette confiance, cet abandon, mais la nuit de la foi, ça correspond à quoi ?
Alors une très bonne question, puisque si on n'avait pas cette question de la nuit de la foi, on pourrait penser que tout est rose, que tout est beau et joyeux tout le temps. Non, mes frères, bien sûr, plusieurs saints, voire tous, mais en tout cas quelques saints de façon particulière, ont vécu cette nuit de la foi. C'est-à-dire que notre foi est mise à l'épreuve. D'une, pour nous rappeler que la foi n'est pas une question des sentiments. Ce n'est pas parce que je ressens la présence de Dieu que je crois. Il y a des moments d'aridité spirituelle, de vrai désert spirituel, où on ne ressent rien, mais on continue à marcher. Pour cela, la fidélité, on avait parlé de croire, de faire confiance, d'être fidèle. C'est dans la nuit de la foi qu'on peut tester notre fidélité à Dieu. Nous avons, par exemple, déjà pour commencer, la Vierge Marie. Imaginez-vous l'épreuve de sa foi quand elle voit son Fils unique, le Fils de Dieu, le Fils qu'elle a conçu après l'annonciation de l'ange par l'œuvre de l'Esprit Saint, son Fils innocent qui meurt sur la croix, rejeté, comme s'il était le plus coupable, le plus blasphémateur de tous, alors qu'il était Dieu lui-même. Donc la Vierge Marie, son cœur transpercé par la foi, elle doit traverser cette nuit de la foi au calvaire, debout, avec une colonne vertébrale. Les chants de l'église Stabat Mater nous rappellent que Marie était debout au pied de la croix. Jusqu'à au matin de la résurrection, où donc sa foi éprouvée va être récompensée. Mais nous avons dans l'histoire de l'Église, surtout dans la tradition du Carmel, mais pas seulement, mais nous avons par exemple Saint Jean de la Croix, qui va traverser, qui va composer son poème « La nuit obscure », alors qu'il est persécuté par ses frères carmes qui ne comprenaient pas la réforme du Carmel au XVIe siècle. Il va être mis dans un cachot et c'est là qu'en traversant cette nuit de la foi, il va composer ses plus beaux poèmes. Nous avons aussi Sainte Thérèse de Lisieux, à la fin de sa vie, toute jeune, nous le savons, malade de tuberculose, qui va traverser la nuit de la foi et qui va dire « Maintenant, je comprends la tentation de tous les athées ». Très intéressant, elle ne ressentait plus le ciel, la vie éternelle, la promesse de Dieu. Et pourtant, elle continuait, elle s'obligeait à croire. Sans aucun sentiment, sans aucune sensation, elle s'obligeait à croire jusqu'au point, bien sûr, je ne conseille à personne de le faire, ça s'est réservé à Sainte Thérèse de Lisieux, mais jusqu'au point de se piquer pour écrire avec son sang « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant ». On les voit dans les musées à Lisieux encore, cette page du journal de Thérèse où elle doit écrire avec son sang le « Je crois en Dieu », tellement était forte cette nuit de la foi. Et pour conclure avec quelqu'un beaucoup plus proche de nous dans le temps, nous avons Mère Teresa, cette femme extraordinaire qui a aidé combien d'enfants en Inde et dans le monde d'ailleurs. Elle a aidé, elle a sauvé. Et pourtant, pendant 51 ans, nous avons le témoignage de ses lettres à ses directeurs spirituels. Pendant des décennies, elle a traversé cette nuit de la foi. Elle ne ressentait plus la présence de Dieu en elle. Et pourtant, Dieu sait combien cette femme est restée fidèle. Elle disait « Je ne ressens plus le ciel, je ne ressens plus la présence de Jésus ». Et elle faisait le matin deux moments très longs d'oraison, de prière devant le Saint-Sacrement. Elle aidait tout le monde. Elle était toujours souriante. Elle disait que, à la nuit de la foi, elle répondait avec le sourire. Donc, à l'extérieur, on ne connaissait rien de cette épreuve. Ce n'est qu'après sa mort, en lisant ses lettres, qu'on va se rendre compte de l'aridité spirituelle qu'elle traversait. Voyez, mes frères, évidemment, je vous donne des piliers, je vous donne des images très fortes de personnes qui ont vécu des sommets de sainteté. Peut-être qu'à notre échelle, on n'est pas à cette nuit-là, mais ça nous aide, ça nous guide, ça nous donne du courage. Et mes frères, pour conclure, cette nuit de la foi nous ouvre déjà à la deuxième vertu théologale dont on parlera la prochaine fois. Parce que quand on est dans la vertu, dans la nuit de la foi, pardon, on doit vivre de la vertu, de l'espérance, ce qu'on dira la prochaine fois. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis rendez-vous à la prochaine émission pour parler de l'espérance.